Nous sommes le lundi 21 janvier et vous écoutez le 39e épisode phase B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Comment vas-tu?
Bah ça va, on enchaîne. On enchaîne
sur 4 jeux de société, non 5 jeux de société.
5, n'ayons pas peur.
Je les vois étalés sur la table.
Des petites boîtes en carton qui frémissent.
On va raccourcir l'intro parce que l'intro du 39A était très très longue.
Voilà, donc là on y va.
On vous rappelle, notes, commentaires, iTunes, Facebook,
le 200 notes.
Le site podcast.proxy avec un -jeu.fr. Merci. Et
c'est parti.
Et j'ai pas joué bien. Et ben c'est parti. Je voulais commencer par faire une petite review de Le Havre, le port fluvial. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, le papa de Bonanza, et papa d'Agricola également, qui est illustré par Clemens Franz, qui est édité à la base par Lookout Games et francisé et distribué par Philadelphia Edition. Paru en 2012, un jeu exclusivement à 2 joueurs. Alors je redis exclusivement pour 2 joueurs. Il y a une version solitaire, mais on n'en parlera pas. C'est pas cette version-là qu'on veut aborder aujourd'hui. 30 minutes, moi j'irais plutôt 45, et 10 ou 12 ans et plus. Le Havre, le port fluvial, c'est un jeu qui reprend ce qui fait le charme et l'efficacité de son grand frère Le Havre. C'est-à-dire un jeu, le poisson fumé.
Voilà.
C'est un jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources. Donc d'abord, on va commencer par le matériel. Le matériel, on a 4 plateaux, 2 plateaux individuels sur lesquels on va déplacer des cubes. Alors, des cubes ou des petits jetons, c'est rigolo, et qui va nous servir pour compter le nombre de ressources qu'on va avoir à sa disposition. Chacun a un plateau de ce type-là pour comptabiliser ses ressources et payer. Et puis, chacun va avoir un plateau avec une sorte d'horloge.
La roue comme Aura Elabora.
Une roue avec Aura Elabora sur lesquelles on va poser les bâtiments qu'on va acheter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadrans sur cette roue. Le premier cadran va valoir 0, le deuxième 2, le troisième 3, le quatrième 4. L'avant-dernier va valoir 4 et va vous rapporter une pièce. Et le dernier va vous faire vendre automatiquement le bâtiment que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait tout le tour du cadran, votre bâtiment, vous devez absolument le vendre. Comme dans Le Havre, on peut toujours, à tout moment, vendre un bâtiment pour la moitié de son prix. Donc en plus de ça, on va disposer d'un certain nombre de bâtiments. Les bâtiments sont numérotés, je dirais, alphabétiquement de A à L. Et en fait, chaque manche, on va faire entrer de nouveaux bâtiments en jeu. Et c'est comme ça qu'on va avoir une progression dans les types de bâtiments qui vont nous donner d'abord des ressources, ensuite ce qui vont permettre de transformer des ressources en points de victoire. Et puis chaque bâtiment a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que chaque bâtiment qu'on va construire, qu'on va pouvoir amener sur son plateau, va nous rapporter des sous. Comment est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne à la fin celui qui a le plus de points de victoire et d'argent, mais c'est surtout les points de victoire qui vont nous faire gagner. Alors, soit qu'on ait construit des bâtiments, soit qu'on ait construit des bâtiments qui nous permettent ensuite de valoriser les ressources et qui nous permettent de faire des points de victoire avec l'argile, le bois, le grain, les poissons, qui sont les quatre ressources différentes. Donc, 2 matériaux de construction, le bois et l'argile, et 2 nourritures, le grain et le poisson. À chaque manche va correspondre à un nombre d'actions. Donc d'abord, la phase A, on va avoir 3 actions. Puis après, en phase D, on va avoir 5 actions. Puis après, en phase G, on va avoir 7 actions. Puis ensuite, 9. C'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, plus le temps va progresser et plus on va faire d'actions dans un tour. Les actions, on va jouer chacun une action successivement. C'est-à-dire que si je suis premier joueur, je vais d'abord jouer mon action. Ensuite, ce sera à toi et ensuite à moi. Le premier tour, il y a 3 actions, donc je vais jouer 2 fois, tu vas jouer qu'une seule fois si je suis premier joueur. On va décaler, en fait ce qui est bizarre, c'est que on a un premier plateau qui est numéroté entre guillemets de A à F, et un deuxième plateau qui est alphabétisé, numéroté de G à L.
Ouais, alors je pensais qu'en fait chacun avait un plateau, mais en fait pas du tout.
Si. Mais c'est-à-dire quand on va tourner notre roue simultanément. Donc en fait, on va d'abord se baser sur le premier plateau en disant je suis sur le A.
B, C, d'accord.
Après, on va tous les deux tourner d'un cran vers la gauche. Moi, je serai en B, toi, tu seras à H. Quand on sera arrivé à F sur mon plateau.
Après, on passera au G sur le mien.
Voilà, c'est ça.
C'est juste pour savoir le nombre d'actions, en fait.
C'est ça. Et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que en fait, tu te dis mais je comprends pas. Enfin, comment je vais savoir combien d'actions on fait ? Ben c'est simple, tu comptes le nombre de bâtiments qu'il y a sur le cran qui est juste avant sur ta rondelle, et tu sais combien de tours on a fait. Parce D'accord. que les actions, c'est 1. Acheter un bâtiment, 2. Utiliser un bâtiment. C'est très simple. Acheter un bâtiment. Quand tu regardes le bâtiment, tu vas avoir en haut un coût. Attends, je vais sortir tout ça du sac. Un coût en matière première, alors ça peut être la compagnie des bois, c'est deux argiles.
C'est
le marché d'épicerie, c'est deux bois. Et la quincaillerie, c'est un bois et deux argiles. Ou le remblai d'argile, c'est trois en sous. Parce qu'on D'accord. a aussi une autre source qui est l'argent. Ensuite, un peu plus tard, à partir de la quatrième manche, on va avoir la nourriture. La place du marché, ça se paye en nourriture. Et donc, bah, tu dépenses tes ressources. Et puis, eh ben, tu prends ton bâtiment, puis tu le poses sur ton plateau. Et un truc assez marrant, c'est que en fait, la gestion des ressources, elle est assez particulière. On a une sorte de bâtiment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux. Et puis avec des sortes de... ça fait... je sais même pas comment te le décrire. Une sorte
de pyramide.
Ouais, une sorte de pyramide où en fin de compte, t'as un axe X et un axe Y. Et en fait, tu vas faire évoluer grâce à certains bâtiments... tes cubes de ressources dans ce bâtiment-là. Et après, en fonction du déplacement de la ressource, tu vas pouvoir dépenser ces ressources.
D'accord.
C'est un peu compliqué. En haut à droite du bâtiment, tu vois que si tu déplaces d'un cran vers la gauche ta ressource, eh ben, tu vas dépenser une ressource. Si tu la fais descendre, ça va
payer 3.
Tu payes 3.
Si
tu l'as fait descendre et aller une fois sur la gauche, ça fait 4.
C'est normal.
Et les bâtiments, bah, tu vas avoir des bâtiments qui vont pouvoir te permettre de faire bouger tes ressources sur ce plateau-là. C'est-à-dire la compagnie des bois, c'est simple, c'est un cran, ton cube de bois vers la droite.
Ça m'a l'air un peu abstrait. Enfin,
c'est complètement abstrait.
Ouais, c'est ça.
Alors, tu peux les déplacer vers la droite. À chaque fois que tu fais un cran vers la droite, tu gagnes 1. Quand tu montes, tu gagnes 3.
Oui.
Donc là, facile, tu vas gagner un petit peu, après tu vas gagner plus. Et alors, le four, par exemple, te le fait déplacer en diagonale, à gauche et en haut.
Donc ça fait 2.
Voilà.
C'est facile.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Après, il y a plein de. Enfin, tout se joue sur les bâtiments où tu vas avoir de la nourriture que tu vas convertir en or. Où tu vas avoir de l'or que tu vas convertir en déplacement de ton cube nourriture haut à droite.
L'avantage que je vois à ça, c'est que les bâtiments, ils sont quand même tout petits. Hein. Faut dire, ils font 2 cm par 2 à peu près.
Ah, mais il faut.
Et du coup, ouais, parce que du coup, il n'y a pas de texte. En fait, c'est juste des icônes, mais qu'on comprend tout de suite. On n'est pas à tourner ici. Oui. Non, t'as quand même quelques-unes un peu costauds.
Ouais, parce qu'après, tu vois, t'as des flèches qui sont blanches. T'as des fois où tu vas non seulement déplacer ton cube. Enfin, tu vas déplacer. Alors. Petite précision qu'il faut apporter, on dit oui, il faut le déplacer. Mais en fait, on le déplace en fonction de la place du bâtiment sur la rondelle. C'est-à-dire que si tu es sur l'emplacement 2, tu vas faire 2 déplacements. Donc si ça te dit 1 à droite, ça ne sera pas vraiment 1 à droite.
Tu le fais 2 fois.
Tu le fais ton déplacement à droite, c'est 2, 3, 4 ou 4 fois plus une pièce d'or. Donc là, tu vois, t'as tout c'est vraiment du Le Havre, c'est-à-dire que t'as vraiment cette transformation, cette accumulation de ressources qui va te permettre d'acheter des bâtiments et puis te permettre d'évoluer, d'être de plus en plus efficace et de faire des points de victoire. Et en plus, t'as une interaction qui est très importante avec ton adversaire, puisque à tout moment, lui payant 1 franc, tu vas pouvoir utiliser son bâtiment.
Comme dans le... C'est ce qui fait la force d'ailleurs du Havre.
C'est ça.
C'est aller occuper des fois le bâtiment des autres.
Donc, au début, tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu dois anticiper et voir un peu loin parce qu'il y a certains bâtiments qui vont te coûter assez cher. 7 bois et 5 argiles, par exemple. ou 8 nourritures, 10 nourritures. Tu vas pouvoir transformer des de la nourriture en
pièces. Les bâtiments sont disponibles en un exemplaire.
Tout à fait.
Donc une fois que tu l'as, quoi.
C'est ça.
Et est-ce que tu dois nourrir ton...
Non, absolument pas.
Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la pression avec la nourriture non, comme Eva.
Et voilà, donc c'est assez simple, en fin de compte, puisque seulement deux actions par... Enfin, un choix qui est entre deux actions tous les tours. Assez simple, parce qu'en fin de compte, tu peux toujours te développer. C'est-à-dire que même si tu dis « je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment faire évoluer mes ressources », tu peux quand même taper dans les bâtiments et tu fais quelques points comme ça.
Et tu vends les bâtiments.
Tu peux, et en fait, tu as toujours un coût, donc c'est le point de victoire.
Tu n'es pas obligé de les vendre, non, ce que tu disais au bout
d'un moment. Non. Alors si tu ne les utilises pas, si tu fais 6 déplacements, tu vas retrouver tes bâtiments de l'autre côté de la roue, là tu seras obligé de les vendre à la moitié de leur prix. Ce qui est un peu ballot. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. C'est beaucoup plus hard que le Agricola 2. C'est-à-dire que là, on est vraiment... Tu t'en rends compte. En fait, dans cette explication...
Les actions paraissent simples comme ça, parce qu'on dit juste utiliser ou acheter, mais en pratique, en fait, les choix sont très difficiles, c'est ça, pour savoir quel bâtiment utiliser, quel bâtiment acheter.
C'est ça. C'est d'abord... il faut anticiper. Il faut anticiper l'arrivée des différents bâtiments. Il faut anticiper ce qu'ils peuvent faire. Donc t'as plein de choix, donc tu mets un petit moment pour d'abord les connaître et puis savoir quand est-ce qu'ils arrivent, même si t'as un petit tête de jeu où t'as tout récapitulé.
Ouais.
Ça te dit combien ça coûte, ça te dit pas ce que ça fait, donc t'es obligé d'aller regarder dans les règles. Mais surtout, t'as toujours cette pression de dire, c'est pas comme si tu faisais ça dans ton coin, que tu planifiais à 12 tours en disant là je vais avoir tant de ressources, puis après je vais faire
non,
ça.
L'autre peut jouer.
T'as toujours la pression que l'autre il te mette des bâtons dans la roue en disant tiens, je vais utiliser ce
bâton. Comme Aura Elabora, de toute façon, est là, c'est ça. C'était tout l'intérêt d'ailleurs, fallait aller chez l'autre.
Donc tu gardes, t'as pas besoin de nourrir tes ouvriers. T'as suffisamment de pression comme ça. Donc beaucoup d'interactions, un jeu qui est plutôt très abstrait. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quoi et ça marcherait pareil, sauf que là ils ont quand même repris le thème de la construction et le thème de la nourriture avec le pont de Normandie, l'IDOC, l'usine de bois, l'usine de poisson, etc., etc. Donc je conseille, sur un trajet de train c'est super, quand vous avez pas envie de faire un jeu très long mais que vous voulez quand même vous impliquer dans quelque chose où vous allez réfléchir. Ça marche parfaitement bien et en plus, gros avantage, vous aurez un petit peu le même goût que Le Havre, qui est un excellent jeu et que je vous conseille fortement. Le Havre, le port fluvial, un jeu à deux chez Philosophia pour à peu près 20 euros.
26,90 chez Ludic.
26,90.
Alors moi j'enchaîne avec Myrmès. Donc Myrmès, pourquoi j'en parle ? On en a déjà... pas mal parlé dans les tops et les... Bon, plutôt dans les tops que dans les flops.
Ouais, puis on en avait parlé, etc.
On en avait parlé vaguement. Mais
vaguement.
Mais oui, on n'est jamais rentré donner notre avis sur le jeu. Et je sais que dans les commentaires du site, il y en a quelques-uns qui ont demandé est-ce qu'on donne notre avis.
Oui.
Donc je me suis fait violence, c'est dur. Je me suis dit, bon, il faut le tester, le jeu. Donc j'ai pris sur moi, j'ai testé le jeu. C'était dur. Non, et blague à part, effectivement, j'étais curieux. Le jeu buzzait depuis quelques mois. Je l'avais sur mes étagères et j'avais toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, je lui ai donné sa chance au début du mois. Et j'ai un bilan un peu plus mitigé que d'autres. Donc, ça vous fera comme ça un peu. Ça donnera d'autres arguments si des fois vous savez plutôt du genre acheteur compulsif. Voilà, vous pourrez réfléchir. En sachant que le jeu, je crois, actuellement, il est en rupture. Donc, comme ça, ça vous aidera à patienter jusqu'à sa réédition. Puisque son retour en stock, il devrait être dans les prochaines semaines. Alors, Myrmès est un jeu sur la thématique des fourmis. C'est un jeu de Johan Levet. Johan Levet, c'est presque un voisin. Il habite.
Un Ludochon.
C'est un Ludochon, donc à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. C'est son premier jeu, donc bravo quand même, parce que c'est pas mal.
Ouais, c'est clair.
C'est édité par Istari, donc. Boîte française qu'on ne présente plus. Spécialisé dans des jeux un petit peu pour gamers.
Poilu. Un petit peu pour gamers.
On verra, ils ont une autre signature, ils ont autre chose qui les démarque nettement et qui fait
qu'ils font
partie des griefs que j'ai contre eux.
Je sens qu'on va parler.
Bon, on a jamais parlé dans les flops.
De style BD.
2012. Ouais, style BD. La thématique, c'est les fourmis. En fait, on va devoir faire prospérer sa fourmilière dans, on va dire, un jardin. Évidemment, on n'a pas la seule fourmilière. Chaque joueur a une fourmilière et il va falloir. En fait, le jeu se fait à deux niveaux. On a un plateau individuel qui est surtout pour gérer. au niveau interne de sa fourmilière, les naissances que l'on va avoir dans l'année et les actions qu'elles vont faire. Et puis il y a un plateau commun au centre de la table qui lui va représenter en fait le jardin dans lequel vont s'affronter les différentes colonies.
Mmh.
Le jeu se déroule, alors ça se déroule sur 3 ans. Chaque année est décomposée en 4 saisons.
Donc, comme dans Seasons.
Ouais, Seasons. Et puis je sais plus un autre jeu que j'ai mangé, mais qui se joue pareil avec des notions de saison.
Tu manges les jeux, toi ?
Je mange les jeux, carrément. J'adore le carton. Et donc, sur une année, les saisons qui se jouent sont le printemps, l'été et l'automne. Et à l'hiver, on ne fait pas d'action. Il faut juste faire de l'entretien et il faut nourrir. Parce que c'est comme d'habitude, c'est comme dans Agricola, c'est comme dans Le Havre. La nourriture, c'est une grosse pression sur les joueurs. Il faut payer 4 jetons de bouffe la première année, 5 la deuxième année et 6 la dernière année. Ça ne se paye pas aussi facilement. Il va falloir prendre du temps pour collecter. À moins que vous soyez des cigales. Mais ça fait mal, évidemment. C'est comme dans Agricola. Si vous nourrissez pas, c'est moins 3 points de victoire par cube non payé. Le déroulement d'un tour, c'est assez facile. Alors, au début, on va y avoir une petite phase entre guillemets de hasard, mais prédéterminée. À savoir qu'au début d'une année, on lance 3 dés, un dé par saison, et ça va permettre de donner un bonus. Bonus sur lequel on peut influencer en payant avec des larves, donc ça permet de limiter le hasard. Ou au contraire, on va bâtir, comme en début d'année, on sait déjà comment sont les dés, on va pouvoir bâtir sa stratégie sur l'année. Par exemple, on voit qu'à la deuxième époque, à la deuxième saison, on va pouvoir plus facilement construire des soldats. Donc on se dit, on le fera à ce tour-là et on va faire autre chose au premier tour.
Mmh.
Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette phase de dés, on va faire la phase où on va placer nos nourrices. Les nourrices, elles vont permettre en fait de choisir comment vont se passer les naissances. Ou bien on va avoir des larves. Donc les larves, en gros, vont servir ou bien à moduler le dé justement d'événement, ou bien elles vont permettre de faire de la nourriture. On va aussi pouvoir construire des guerrières. Donc, les soldats, eux, vont permettre de tuer. Il y a sur le plateau, en fait, en début de partie, il y a des insectes. Donc, ça permet de tuer les insectes. Ça va aussi permettre de survivre à l'hiver. Pour chaque soldat, ça fait un cube de bouffe en moins à payer.
Bon, tu dis, il n'y a pas de placement prédéterminé, ça change le placement des insectes. Les insectes, le placement ne change pas. Par contre, le type d'insecte change. Est-ce que ça te rapporte, change ?
Les insectes, oui, les 3 types d'insectes, ouais. La fourmi, le termite et
la coccinelle.
C'est là, oui, pardon, la coccinelle, les termites et les araignées. Effectivement, en début de partie, ça change.
Donc il y a une rejouabilité quand même à ce niveau-là, ça peut changer quand même.
Ah oui, carrément. Moi, jamais de chance, je mange jamais là où il y a les coccinelles. Et l'autre.
Il n'a pas de chance,
chance. Et après, l'autre type de fourmis qu'on peut faire, c'est bien sûr les ouvrières. Les ouvrières qui vont nous permettre de récupérer des ressources, d'aller sur le terrain, dans le jardin et à la conquête du territoire. Les soldats, j'ai pas dit, mais elles peuvent aussi permettre, on verra, de détruire, en fait, de prendre la place des territoires adverses. Donc une fois qu'on a décidé comment on faisait ces naissances, on va faire les tours d'action. Donc c'est là les seules fourmis qu'on va manipuler, c'est les ouvrières, parce que c'est les seules qui peuvent faire des actions. Elles peuvent faire des actions dans la fourmilière. Au début, une fourmilière, elle est toute petite, et puis petit à petit, on va pouvoir l'étendre, l'agrandir, ce qui donnera accès à de nouvelles ressources. Ou bien les ouvrières, on va les envoyer sur le plateau. Là, elles ont le droit de se déplacer de 3 cases. Si elles arrivent sur d'autres insectes, il faut les tuer avec des soldats, ça peut rapporter de la nourriture. On va pouvoir placer, ça c'est ce que j'aime beaucoup, des tuiles phéromones, donc qui sont au début toutes petites, mais plus on a agrandi notre fourmilière, plus on a droit à des grosses tuiles phéromones.
Ouais, c'est un peu un 4X en fait.
Ouais, si on veut.
Explore, extend, exterminate.
Oui.
Exploite.
C'est vrai, c'est un 4X version. Je vais finir, mais on comparait ça à Antiquity la semaine dernière, qui est aussi très juste. Les tuiles phéromones, en fait, c'est ce qui fait penser à Antiquity. On va les placer sur le plateau. Donc au début, on a des petites tuiles, mais plus on va agrandir la fourmilière, plus on va avoir des grosses tuiles. Ces tuiles, ça marque notre territoire. Une fois qu'on a placé la tuile, ça va mettre des cubes ressources qui correspondent au terrain qu'il y avait dessous et qu'on va pouvoir récolter dans la quatrième phase du jeu. À savoir qu'on peut également, les tuiles phéromones permettent aussi à nos fourmis de se déplacer plus vite. Quand elle arrive sur une tuile phéromone, pour un point de mouvement, elle peut traverser toute la tuile phéromone d'un coup. Et c'est une phéromone, c'est si on veut passer sur une phéromone adverse, il va falloir payer un soldat. Donc il y a toute une notion de territoire qu'on va se disputer à travers ces tuiles phéromones qui sont vraiment pas à négliger, mais on peut aussi nous payer pour dégager les phéromones adverses.
Ouais, vous avez déjà compris qu'en fin de compte, en fonction de là où vous êtes sur le plateau, en fonction de la façon dont vos adversaires, en fait, les gens qui sont à votre gauche et à votre droite, les parties vont être complètement différentes. Voilà, l'interaction est incroyable.
Si vous jouez à 4, le joueur qui est en diagonale face à vous, vous avez peu de chances de le rencontrer sur le plateau, sauf peut-être au centre. Par contre, vos deux voisins directs, effectivement, eux, vous allez vous rencontrer souvent.
Et c'est la partie, je pense, négociation, un petit peu. Il y a une partie un peu comme ça où tu peux.
Ouais, parce que le plateau gâteau est petit, on se rend compte vite. Alors la première partie, vous allez pas forcément vous en rendre compte, parce qu'après la première partie, on galère un petit peu, c'est, on verra après. Mais on a un petit peu du mal au début, il y a plein de choses à faire, mais pas beaucoup d'action, parce qu'au début, on commence avec pas beaucoup de nourrices, et petit à petit, il va falloir augmenter ses nourrices, il va falloir augmenter un petit peu les ouvrières. Ce que j'ai pas dit, c'est que les ouvrières qu'on envoie sur le terrain, on les perd à la fin du tour. Et ça coûte cher de fabriquer des ouvrières. Donc il y a vraiment une gestion, un petit peu une petite anticipation qu'il faut savoir
mener. Il y a une petite mener. Anticipation.
Une petite, on verra justement de 2-3 tours.
Oui, c'est ça.
Ce qui vous fera du mal.
Au et 2-3 tours, c'est une année, c'est ça?
Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a 3 années. Ouais. Pour vous donner un petit peu une idée. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Donc une fois qu'on a fait la phase où on déplace les ouvrières, on va avoir la phase de récolte. Donc là, on récupère on va récupérer les cubes de ressources là où on a mis les phéromones. Mais également, quand on a commencé un petit peu à grandir sa fourmière, on peut placer des tuiles un peu plus intéressantes, comme un élevage de pucerons qui va nous ramener un cube de bouffe par tour. Alors ce que j'aime bien, c'est que par contre, pour poser un élevage de pucerons, il faut payer une pierre.
Une pierre.
Normal, un peu de pierre pour les pucerons.
Bah oui.
Logique.
C'est thématique.
C'est thématique. Et puis, on peut aussi faire à l'inverse une tuile. Je sais plus comment ça s'appelle, où on peut, en fait, on paye une bouffe et ça permet de produire une pierre ou une terre. Donc, c'est les ressources hein, du jeu. Nourriture, larves, terre et pierre sont les ressources du jeu. Une fois qu'on a fait cette phase-là, il y a la phase de l'atelier. C'est intéressant, c'est des nourrices que l'on a en début à la phase 2 qu'on n'a pas voulu placer pour des naissances. On peut envoyer à l'atelier. L'atelier, ça va nous permettre des choses très intéressantes, comme justement agrandir notre fourmilière. Donc pour avoir plus d'options, ça va être de creuser une autre galerie pour sortir plus loin sur le plateau, donc justement pour aller menacer les adversaires ou bien au contraire se placer vers des zones un peu plus intéressantes pour nous. On va également pouvoir avoir une nouvelle nourrice, mais pour ça il faut payer 2 nourritures et 2 larves, c'est pas négligeable, ça se prépare sur un tour complet la naissance d'une nouvelle nourrice.
Ouais, voilà. ça veut dire une action supplémentaire.
Et une nourrice, c'est en tout cas des naissances supplémentaires, ouais. Donc des actions supplémentaires. Donc c'est à ne pas négliger, mais c'est pas évident. Et enfin, dernière action avec les nourrices.
Pas négligeable, mais pas évident. C'est
ça.
C'est ce jeu. Ouais,
c'est ça. Et donc la dernière action qu'on peut faire avec les nourrices dans l'atelier, c'est d'aller remplir des objectifs. Donc en début de partie, en fait, il y a 6 objectifs qui sont placés sur le plateau. Ça fait aussi la rejouabilité du jeu, puisqu'il y a 3 niveaux d'objectifs plus ou moins faciles. Et ils sont piochés au hasard parmi tout un tas en début de partie. Donc chaque partie va être différente.
Alors je peux en citer 2-3, c'est objectif ressources. 3 nourritures ou 6 cubes, soit de pierre, soit de terre. Après, il y a objectif larve, il faut un nombre de 5 larves ou 9 larves. Objectif proie, etc.
Il faut tuer des proies, il faut les donner.
Ouais, je suis pas fan de ça. Mais tu l'as dit, hein, ça permet de...
Ça renouvelle
de
le
renouveler
jeu.
Le jeu, puis ça permet de l'enrichir parce que tu fais ton business, mais en plus, il faut viser ça.
Voilà, c'est ça. Le truc, c'est ça. Et en sachant que quand on remplit l'objectif, la nourrice qu'on a mis pour cet objectif, on la perd. Donc il ne faut pas le faire trop tôt dans la partie. Enfin, c'est vraiment tout est à calculer.
Mais il faut quand même le faire avant les autres.
Mais voilà. Plus on le fait tôt, plus quand d'autres joueurs vont venir faire le même objectif que nous, on va marquer à nouveau des points. Donc beaucoup de subtilité. Et enfin,
pas facile, hein.
Non, pas facile. Et enfin, dernier point, on va faire l'entretien. Et dans ces cas-là, on ne peut garder que 4 cubes ressources dans sa fourmilière au début. Quand on aura grandi suffisamment la fourmilière, on pourra garder 6 cubes. Mais c'est pas beaucoup, en sachant que l'hiver arrive après cette phase-là et qu'il faut avoir suffisamment de cubes. Donc vous voyez bien que il est important d'avoir prévu à l'avance les cubes que l'on va garder, etc. Il y a des tours où on se retrouve finalement à devoir jeter des cubes. Ça, c'est du gâchis. Il faut avoir optimisé. Eh oui. Donc voilà, donc vous l'aurez compris l'explication de la règle. Le jeu, il est en termes de gestion de ressources, en termes de, je sais pas, de planification, de calcul, d'optimisation, on va dire, il est parfait. Si vous êtes un joueur averti, vous allez vous régaler. Maintenant, il faut quand même savoir que c'est un jeu qui n'est pas si facile d'accès. Moi, j'estime que
c'est pas vrai.
Non, mais des joueurs débutants, ils peuvent y jouer, mais il faut quand même une erreur en début de partie se paye tout au long de la partie. Et en ça, pour moi, j'estime que c'est pour ça que je classe dans la catégorie joueur averti.
Ah bah c'est velu, oui.
Ouais, c'est velu, exactement. Et c'est comment je veux dire. Non, le jeu, il est très bien. Il est très bien pensé à tous les niveaux, mais il est quand même rugueux sur cet aspect-là et pas qu'un peu. Vraiment, les premiers tours, les premières parties, en tout cas peut-être qu'après, au bout de quelques parties, on maîtrise mieux ce qu'il faut faire, on comprend un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de chaque action. Mais ça va demander vraiment on planifie pas juste un tour, mais on calcule aussi ce qu'on va faire dans les 2 prochains tours. Parce que si on regarde juste ce qu'on fait ce tour et qu'on fait pas attention à la nourriture de l'hiver, c'est fini. Quoi.
Ouais, et il faut faire attention à ce que peuvent faire les autres, est-ce que vont faire les autres, est-ce qu'ils vont poser des phéromones, agrandir leur fourmilière pour poser des phéromones qui sont plus grandes, qui vont couper l'œuf sur le pied parce que la ressource que vous allez, dont vous allez avoir besoin, bah, ils seront chez les autres et pas chez vous.
C'est, du coup, ça fait penser un peu quand on parlait de Edge of Steam où je disais à l'époque où on jouait Edge of Steam, c'était la phase où on choisissait combien d'actions on avait vues en bourse, c'était le plus important parce qu'on calculait tout. Là, c'est la phase où on choisit ses nourrices, où est-ce qu'on les place, est-ce qu'on va produire des soldats, des ouvriers, des larves. C'est super important. C'est vraiment la phase du jeu qui peut prendre 10 minutes pour que tout le monde choisisse. Ouais. C'est très important. Donc voilà, maintenant sachez que dans le History Mag numéro 2, dont on vous remettra le lien en téléchargement, il y a un article de Thomas Coe qui revient un petit peu sur les différentes parties du jeu, qui explique un petit peu mieux les contraintes, enfin les aspects de chaque partie du jeu. Ça aide. Après votre première partie, vous pouvez lire l'article, ça va vous aider à mieux, à mon avis, à mieux vous développer pour les parties suivantes. Ouais, mieux appréhender. Je trouve que la première partie, c'est bien de la faire pour découvrir tout. Tout ce qu'il y a déjà, parce que lire l'article à mon avis sans avoir joué c'est pas évident, par contre après c'est un bon, ça aide à mon avis pour les parties suivantes. Du côté des regrets, à part ça, moi c'est le design historique que je regrette, parce que ok, Kellus est sorti en 2007, c'était pas très beau, mais c'était 2007, on n'était pas habitué à des super productions. Maintenant on a eu des jeux comme Seasons, on a des jeux comme Tokaido, on a des jeux sublimes qui sortent, qui sont français. Historic, c'est français. Je pense
c'est français, monsieur.
C'est français, et je pense que ça a l'air suffisamment solide pour se payer un graphisme un peu mieux, parce que le jardin, bon, y en a qui aiment. Moi, je trouve que les couleurs sont un peu franchement criardes, quoi. Les champignons rouges, ça pourrait être un petit peu plus soigné. Je parle même pas des tuiles objectifs. Voilà, là, on est vraiment dans le style. Quelqu'un me disait, je crois, Amitis, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment les tuiles Historic comme on faisait il y a 5 ans.
Kaius.
Mais plus maintenant. Ouais, Kaius, non, mais c'est vraiment Kaius, quoi. Là-dessus, petite déception. Et les araignées, alors ils sont gentils, ils ont mis des petites. En gros, c'est que des cubes en bois. Par contre, on a des araignées en plastique, des jolis pions en araignée. Non, bah tu vois, voilà. C'est des fourmis. Mais en fait, tout le monde parle tout le temps d'araignées parce qu'elles ont un gros abdomen qui fait qu'on dirait plutôt des araignées. Mais c'est louable, c'était sympa de faire ça. Mais les nourrices, ouais, les nourrices sont par contre des octogones en bois.
Ouais, en fin de compte, c'est quand même assez. Tu places tes araignées sur ton plateau. Tu places tes fourmis sur ton plateau, c'est chouette, enfin, c'est pas si désagréable à l'œil que ça. Je suis d'accord avec toi, ils auraient pu faire quelque chose de vachement, enfin, quand on voit ce que fait Neria, quand on voit ce que font
c'est ça.
Un Seasons, enfin, c'est
d'un autre. Non, je pense que Historic peut franchir ce cap maintenant et aller faire quelque chose de vraiment beau, quoi. Le plateau individuel de la fourmilière, moi, je le trouve pas choquant. En plus, il rappelle bien chacun des numéros des phases qu'on doit jouer, mais je sais qu'il y en a certains qui ont trouvé ça un petit peu austère. Voilà, mais ça, c'est de l'appréciation personnelle sur le matériel. Pourtant, j'aime beaucoup la couve de la boîte. Voilà, pour moi, c'est un très bon jeu, mais je m'attendais à un jeu qui allait vraiment révolutionner la façon de jouer. C'est finalement.
Alors bah c'est du pur jus Historic avec.
Oui, c'est ça. Il a vraiment sa place chez Historic.
Ouais, c'est nul par ailleurs d'ailleurs.
Et voilà.
Mais bon, alors tu dis, je vais vous faire une review qui va peut-être vous empêcher de. Enfin, moi, j'ai envie de te l'emprunter.
Oui, oui. C'est juste le bémol que je mets, c'est-à-dire qu'il y en a. Enfin, faut pas croire que c'est pas le jeu qu'on joue avec mémé, justement, dont on parlait dans la façade. Oui, ça. C'est un jeu, il faut jouer entre joueurs un peu avertis. Vous n'allez pas non plus jouer forcément avec vos enfants tout de suite. C'est un jeu qui est noté pour 13 ans et plus. Je pense qu'on est à peu près dans ce niveau-là, quoi. Donc, Myrmès est un jeu de Johan Levet chez Historic pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans, pour 1 à 2 heures environ. Ah oui, j'ai pas dit, mais c'est un jeu qui marche très bien, effectivement, quel que soit le nombre de joueurs. Parce que le plateau évolue en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous allez jouer sur un petit plateau, et à 4 joueurs, vous allez jouer sur un grand plateau. Donc il y a le même niveau d'interaction. La durée change, effectivement, à ce niveau-là. Voilà, et vous le trouvez pour environ.
Vous le trouvez pas en ce moment.
Alors, vous le trouvez pas en ce moment, et vous le trouverez pour 35 à 40 euros.
On précommande chez Luc Bazar, bientôt, dans toutes les bonnes boutiques, et ça va revenir. On vous en a déjà parlé, c'est Maël qui vous avait parlé de Crime Box. Je crois qu'il avait fait un essai à Ludimania. Et puis il était revenu nous en parler en l'évoquant. Et je l'ai essayé, je vais vous parler de Crime Box Investigation. Un jeu de Ludonautes par Simon Kraft et qui est illustré par Cédric Lefebvre. Alors il serait Alors là, on n'est plus du tout dans ce que peuvent faire ni Naiad, ni personne. Là, c'est du photoréalisme. Et on est vraiment dans NCIS lorsque on voit sur les murs la photo des personnes qui sont suspectées et puis leurs différents liens avec entre eux, les différents liens entre eux, et puis les scènes de crime et ce qu'ont découvert les investigateurs.
Il faut jouer avec un tableau blanc ?
Non, tu joues avec une table. Ah. Pas forcément blanche. C'est distribué par Asmodée. Alors, bon, sur le track, ils disent jeu livre, c'est un jeu de communication. C'est clairement pas un jeu où il faut jouer avec un enjeu. Je pense que la meilleure façon de jouer, c'est pour se raconter une histoire et passer un bon moment. Et puis c'est un vrai jeu d'expression, de communication. Donc si vous êtes des gens qui sont vraiment très timides ou trop timides, ça marchera pas. 2 à 8 joueurs, 12 ans et plus, 30 minutes et puis une vingtaine d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors d'abord, c'est effectivement un format livre, quand on l'a dans la main, on dirait qu'on a un gros bouquin. Et puis, on a effectivement une nouvelle avant la règle. Des nouvelles,
pardon. Oh la vache, il y a 100 pages.
C'est ça. Oui, la règle fait pas 100 pages. Elle en fait plutôt 15 et après, c'est des nouvelles.
Bon, c'est écrit gros en plus.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et on a, en fin de compte, deux paquets de cartes. Enfin, on a plein de cartes différentes, mais on n'a pas grand-chose comme matériel, mais on a plein de matériel pour se raconter une histoire. D'abord, on va choisir une victime. Donc, on a une victime, je montre à Jérémy.
Oh, la pauvre victime.
Et on a des identités, donc ça peut être par exemple Chad Johnson, 59 ans, policier, ou Joshua Miller, 19 ans, étudiant. Et puis, les gens qui ont édité ce jeu ont bien fait des choses parce que sur les cartes, on a des idéogrammes. Quand tu as cette carte, la carte de la victime, tu as en bas, oui, au centre, un petit idéogramme
qui correspond à une carte d'identité, quoi.
À la carte d'identité. Et donc, tu vas prendre ta carte d'identité, tu vas la placer dessus en superposant les idéogrammes.
Ah, oh.
C'est bien fichu. Ensuite, tu vas avoir des suspects. Donc pareil, tu vas avoir trois suspects et qui ont... tu vas prendre les identités.
Moi, c'est pareil, c'est d'autres identités.
Voilà.
Donc une fois, Joshua Miller, c'est la victime, puis la partie d'après, c'était...
Ça peut être Johan Taylor, ça peut être Chad Johnson, ça peut être les autres. Et puis tu vas avoir une scène de crime, et puis éventuellement, tu vas avoir le domicile de la personne qui est malheureusement décédée, ou alors il peut lui arriver des choses, mais bon, voilà.
Et après ?
Première chose, tu vas décider la cause de la mort. La cause de la mort, ça peut être une perforation pulmonaire due à de multiples blessures.
Quand
à l'arme
tu dis
blanche.
Tu vas décider si tu la pioches,
tu prends une carte. Une blessure par balle.
C'est l'autopsie, quoi, qui te dit.
C'est l'autopsie.
D'accord.
Et l'autopsie, moi, tu vas la poser, tu vas dire voilà, il est mort comme ça. On va décider ensuite où le malheur qui est arrivé à cette personne est arrivé. Donc ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être la forêt, ça peut être un parking, ça peut être le parc, donc ça peut être intérieur extérieur, ça peut être l'aéroport. Et puis finalement, on va piocher une carte première observation qui va nous donner un peu plus de contexte sur ce qui s'est passé. Par exemple, la victime porte une élégante tenue de gala, ou la victime a les mains très sales, ses vêtements sont tachés, etc. Donc là déjà, tu sais que donc on est parti sur Joshua Miller. Joshua Miller, il a été retrouvé dans le parc. La cause de la mort est une perforation pulmonaire due à une multiple blessure à l'arme blanche. Et il a les mains attachées dans le dos.
Oh.
Donc déjà, t'as une scène de crime.
Je pense que c'est un suicide.
Oui, bien sûr. Et puis, à partir de là, les joueurs vont avoir 4 paquets de cartes dans lesquels ils vont pouvoir taper pour enrichir, en fait, l'histoire qui se met en place. Le premier paquet de cartes, c'est pièces à conviction. Donc les pièces à conviction, ça peut être une batte, un pied de biche, un fusil, une écharpe, des ciseaux, etc. Et donc là, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. C'est-à-dire que tu pioches dans ce tas-là, tu dis « je veux une pièce à conviction » et je vais attribuer cette pièce à conviction au suspect numéro 1, 2 ou 3, ou je peux aussi le mettre au domicile de la victime, etc. Il y a des fois où ça ne va pas coller trop.
Bah ouais, l'écharpe avec les perforations dans le poumon, ça va être un peu bizarre.
C'est ça. Et encore, bon, après, tu peux voir une batte ou une seringue. Tiens, ça sert.
Ah ouais.
Donc ça, c'est le premier tas dans lequel tu peux taper. Enfin, tu peux piocher dans le tas des pièces avec conviction. Deuxième tas, le rapport d'enquête. Les rapports d'enquête vont être attribués au suspect ou à la victime. Et ça peut être, par exemple, croule sous les dettes, un huissier venu la semaine dernière.
Oh.
Ça peut être est invalide suite à un dramatique accident de voiture. Ça peut être, ces derniers temps, des gens bizarres lui rendaient visite tous les jours.
Ça peut être les trois mélangés.
Non, pas oui, non, si, si, parce qu'en fait, t'as un certain nombre, tu peux en rajouter deux par suspect et par victime.
Ouais, d'accord.
Donc tu peux dire qu'il est invalide et des gens bizarres lui rendent visite tous les soirs. Là, ça commence à être vraiment tordu.
C'est bien plus glauque.
Donc ça, c'est le rapport d'enquête. Tu peux aussi avoir des relations et des liens. C'est-à-dire qu'une fois que tu dis on sait des choses sur les gens, maintenant on veut savoir quels sont les rapports entre les suspects, entre eux, ou les suspects et la victime. Par exemple, sont de la même famille, ont travaillé ensemble, son voisin se croise quotidiennement, etc., etc. Et là, tu vois que tu te sens bien qu'il y a un truc qui se met en place, qu'on va avoir une vision globale des choses.
Donc toi, t'es l'inspecteur qui a collecté, à qui on a ramené tous les éléments, et il faut que tu brodes en fait une histoire pour justifier.
C'est ça.
Les joueurs jouent ensemble ou pas ? Je sais pas si tu l'as dit, ouais.
Et quatrième tas de cartes, c'est l'analyse. C'est-à-dire que quand tu as posé des pièces à conviction, bah, tu peux dire si l'analyse ADN correspond au suspect 1, les empreintes correspondent au suspect machin ou à la victime. Et voilà. C'est vraiment, tu vas un petit peu plus loin dans le détail en disant oui, au fait, l'écharpe, elle n'était pas la victime, elle était au suspect numéro 2.
Ah, ça change
et
tout.
L'idée, c'est vraiment ça. C'est dire, on avance, on enrichit l'histoire. Et à un moment donné, normalement, quand il y a deux cartes sur chaque emplacement, donc deux cartes au niveau de la victime et chaque suspect, on peut commencer à arrêter et dire, ben voilà, moi j'ai une histoire.
En fait, ça fait penser un peu au début, comme à Sherlock Holmes, où on va découvrir des éléments petit à petit. Mais sauf que la différence, c'est que dans Sherlock Holmes, détective conseil, la résolution, elle est écrite à l'avance, alors que là. En fait, c'est toi qui l'as fait. C'est un brassage purement aléatoire des cartes.
Ça va même plus loin. C'est-à-dire que c'est toi qui. Ouais. Tu dis voilà ce que je veux comme élément pour faire mon histoire.
Ouais.
Et voilà ce que j'imagine pour qu'il y ait une cohérence à cette histoire.
Et comment tu décides si c'est la bonne histoire ou pas? Les autres joueurs
Tu le vois. C'est tout l'intérêt du jeu. Tout l'intérêt du jeu, c'est de dire quand est-ce que je vais m'arrêter? Il y a un moment où t'as pas assez de matière pour raconter ton histoire, il y a un moment où t'en as trop. Parce que ça devient complètement biscornu, t'as des liens qui se font. C'est
ce qu'avait dit Maël, il disait le problème c'est qu'au bout d'un moment, un joueur peut faire exprès de rajouter un élément
non,
pour
c'est nul, ça.
Compliquer encore.
C'est nul, il faut jouer.
C'est le reproche du jeu, mais
il
voilà.
Il faut jouer full coop. Et l'idée c'est vraiment en un quart d'heure, 20 minutes, on se raconte une histoire. Et puis pour celui qui raconte une histoire, l'idée c'est d'être le plus cohérent possible. Donc tu vas dire, ben voilà, je suis un mineur, il avait une relation avec Chad Johnson, il lui devait de l'argent, c'est pour ça qu'après... Ben, et pour les autres, l'idée c'est de bien écouter, de dire, ben non, attends, ça va pas ton truc, parce qu'en fait, si c'était passé ça comme ça, eh ben lui, il aurait jamais fait ça. Et c'est ça l'intérêt du jeu, c'est de se raconter une histoire et d'arriver à monter un scénario et descendre le scénario des autres.
Donc c'est un peu du jeu de rôle narratif.
Bah ouais.
Quelque part, tu racontes une histoire et c'est un autre qui prend la parole après,
ouais,
etc.
Ouais, chacun émet du jeu. Et... Après, c'est toujours la même chose. C'est ce que je disais en début de review. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que pour les gens qui sont à l'aise à l'oral et qui ont un background très NCIS, bah, ça passe bien. Ou les experts, ou ce que tu veux. Bah, tu vas savoir monter un truc, monter un scénario qui tienne la route, avoir des relations qui sont cohérentes et puis... En fait, tu as toujours besoin de remplir les creux. C'est-à-dire que là où tu as du vide par rapport aux informations qui te sont données, bah c'est là où tu dois travailler pour avancer. Et tu as des gens qui font ça plus mieux que d'autres. Donc il faut éviter qu'il y ait quelqu'un qui drive quand même toute la... Enfin, si vous en faites une, deux, trois... Bon, une, c'est bien. Deux, c'est bien aussi. Après, trois, je pense que c'est un peu comme, comme les parties de bowling.
Ouais.
Je sais pas si l'effet partie de bowling chez nous, c'est tu t'en fais une, t'as toujours tout de suite envie d'en faire une deuxième, puis quand tu fais la deuxième, t'en as marre un peu. C'est bon. Bref. Là, c'est pareil. Voilà. Il y a deux versions, il y a deux façons de jouer. Ça, c'est la première. Après, ça se joue en fait en deux modes, le mode enquête et le mode procès. Et le mode procès, pardon. Une fois qu'on a défini qui était la victime et qui est le meurtrier, les avocats doivent innocenter leur client. Et puis, le procureur doit le faire emprisonner. Et donc, en fin de compte, moi, j'ai pas testé. Je pense que le plus drôle, c'est quand même celui-là. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super marrant. J'étais
C'est original, disons.
très agréablement surpris. C'est très actuel comme jeu. C'est très accessible. Et en fin de compte, ben, ça donne envie d'y rejouer. J'ai joué à Black Stories aussi. Ça va très bien, en fait. C'est un peu dans la même veine où on te raconte une histoire et tu dois savoir pourquoi. Je ferai une critique de ça un peu plus tard parce que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. C'est un truc qu'on sort, on peut y jouer en voiture, c'est vraiment pour un trajet en voiture, c'est parfait.
Familial.
Non, ça dépend. Mais il y en a plein, donc je pense qu'il y en a certaines qui
Ouais.
sont familiales, mais non, même pas. Non, en fait, non.
Non.
Bref, je vous conseille Crimebox Investigation de Simon Kraft chez Ludonote. C'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Ça dure pas très longtemps, c'est dans une trentaine de minutes. Et c'est vraiment rigolo. Donc, si vous aimez les scènes de crime, les histoires tarabiscotées, et puis essayer de trouver la faille dans le scénario
NCIS.
des NCIS, des séries d'actualité, enfin des séries d'enquête actuelles, eh ben, jetez-vous sur ce petit jeu qui est vraiment sympathique.
J'enchaîne?
Oui.
Ah. Bon, j'avais prévu de vous
Comment ça?
parler.
Ah, tu t'es emmerdé pendant ma critique?
Non, 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 non. Non, c'est parce que j'avais dit Crimebox, c'est un format de. C'est un format qu'on range pas n'importe où. Enfin, qu'on peut pas ranger comme d'autres boîtes, c'est un format à part. Voilà. Donc.
Non, c'est un format livre que tu mets dans ta bibliothèque.
Ah oui, mais ma bibliothèque, moi, c'est des boîtes de jeux.
Bah, c'est
Alors.
typiquement ça, quoi. Comme un gros poche.
Un gros gros poche. Alors. J'avais prévu de vous parler de Mytho, mais en fait, on en a beaucoup parlé plusieurs fois dans les tops 2012 lors du live à la Triche. Donc, je vous invite à l'écouter. On vous dira à quel point c'est bien. On peut jouer avec eux, tout le monde. On peut mélanger les grands-parents avec les arrière-petits-enfants. Il n'y a pas de problème.
Ouais, il faut pas.
J'exagère à
Ouais,
peine, mais c'est
ma
ça.
voisine n'a pas aimé.
Oui, ta voisine, est-ce qu'elle aime les jeux?
Oui.
À quoi elle joue?
Je sais pas.
Oh là là.
Faut que je la fasse jouer aux
Très,
aventuriers du
enfin,
rail. Non, elle a pas aimé parce qu'elle aime pas quand on triche.
Oui, mais on a Mytho, c'est un jeu où on a le droit de tricher. C'est ce qui fait la
Il faut
force.
pas se
Les
faire prendre.
enfants ont les yeux qui brillent quand on leur dit ça. Oui, mais il y a quand même des règles de triche. C'est un jeu où il y a des règles, on ne triche pas comme n'importe comment, effectivement. Et le problème, c'est que rapidement, au fur et à mesure qu'on fait des parties, les joueurs, l'ambiance est tellement euphorique autour de la table qu'effectivement, les règles de triche sont un petit peu bafouées. Donc, il faut un petit peu ramener des fois tout le monde sur le. Enfin, rappeler alors un petit peu tout le monde.
Comment ça se passe? Il y a un juge, il y a quelqu'un qui
En
dit.
fait, il y a un joueur qui garde, il y a un
Ah
joueur
oui, quand
qui.
même, oui.
Il y a un qui joue la punaise gardienne, et donc il n'y a que lui qui doit surveiller qui triche. Si toi, t'es pas gardien, et que tu vois un autre joueur tricher, tu dis rien. En général, tu te marres, en fait, hein, quand tu vois que le gamin, comment il te fait ça discrètement ou pas, ou que l'autre voit rien, tu te marres, forcément. Donc voilà, par contre, quand c'est toi la punaise gardienne, bah, tu ne dois pas tricher déjà. Et rien que pour ça, t'as intérêt à vite dénoncer quelqu'un d'autre pour pouvoir à nouveau tricher. Parce que plus vite, quand tu triches, tu te débarrasses de cartes, et le premier qui s'est débarrassé de toutes tes cartes a gagné.
Bonjour, je suis la punaise gardienne.
Ouais, et puis elle a un air pas commode. Elle a les pattes croisées, là, un air sévère.
Comme toi, quoi.
Ouais, et on m'a fait remarquer qu'elle avait la même couleur que mon pull fluo vert que j'ai des fois.
Fluo vert.
Ouais, tu sais que
Ah
je l'ai.
oui.
Voilà, si je le mets, eh ben, c'est la même couleur.
Alors c'est
C'est un
pour
peu
info, c'est
le shérif.
la même boîte, format de boîte et de jeu que Kraken,
Quelqu'un n'a qu'un poker, le cafard des poker, le poker des cafards.
Voilà.
On retrouve les mêmes graphismes, hein, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est le must absolu 2012 en jeu à offrir partout, à jouer avec n'importe qui. C'est
Mais
comme
pas ma voisine.
mais sauf la voisine d'Olivier. Il en faut bien une exception, on l'a trouvée.
On pourrait l'inviter pour
C'est
qu'elle nous
comme
dise
d'hab.
ce qu'elle aime comme jeu.
Écoute, oui.
Bref, je lui en parlerai.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, je vais vous parler de Game Over. Alors, Game Over, pourquoi?
Game over.
Game Over, c'est
Kid
un.
Paddle.
Oui, tu connais.
Bah, j'ai des enfants.
Et ouais, voilà. Enfin, moi, je disais Kid Paddle avant d'avoir des enfants, mais c'est le côté un peu jeu vidéo. Donc, si vous connaissez les bandes dessinées, Kid Paddle, c'est un gamin. Si vous ne le connaissez pas plutôt, c'est un gamin d'une dizaine d'années qui aime beaucoup les jeux vidéo. Donc, qui est dans son délire jeux vidéo. Et puis, avec les copains, le délire d'aller au cinéma voir un film d'horreur en étant mineur, c'est le délire.
Il prend des champignons, il voit des trucs que les autres voient pas, quoi.
Oui, bah, il y a un petit peu de tout. Ouais. C'est le délire avec les copains d'avoir des monstres, etc. Et puis, dans ces BD-là, il y a un petit personnage, le petit barbare. Un petit barbare qui doit aller sauver la princesse, et donc de temps en temps il y a une petite des planches comme ça avec des manières où il se fait avoir dans le jeu. Alors c'est des jeux vidéo qui seraient, on va dire, dans l'absolu superbes, où tout est ouvert, etc., parce qu'il y a des pièges vraiment ingénieux dans ces BD. Mm-hmm. C'est ce qui nous fait rire. Et il y a eu donc un jeu qui est sorti chez La Haute Roche, donc un petit éditeur qui distribue après dans les boîtes, ce qu'on appelle les boîtes kangourous, là c'est les petites
la
boîtes.
La Haute Roche.
La Haute Roche, oui, pardon, je dis La Haute Roche, ça va vite, mais La Haute Roche. C'est donc une petite maison d'édition, donc c'est chez Asmodée, ces petites boîtes kangourous en carton souple. Le jeu vaut une dizaine d'euros, et en fait c'est un jeu de mémoire. On va faire un plateau avec des cartes cachées de 5 cases par 5 cases. Le but du jeu, chacun a un petit barbare d'une couleur, il faut aller se délivrer la princesse. Et comment ça marche? Au début, on se place à un angle. On va devoir retourner la carte. En fait, il faut choisir. Au début, on a le choix entre 4 armes. Donc, le pistolet, une fiole de poison, des flèches, je sais plus quoi, et le gourdin. Mmh. Et on dit, par exemple, je pars avec le pistolet. Et on retourne la première carte. Si c'est un monstre qui est faillible au pistolet, paf, c'est bon, je l'ai eu, je peux retourner une carte suivante. Sinon, mon tour s'arrête. Donc, si j'ai trouvé avec le pistolet, je dis je garde le pistolet, je retourne le suivant, c'est une fiole ratée. Donc, fin de mon tour, je remets les cartes face cachée.
C'est un jeu de mémoire.
C'est un autre joueur. Ouais, c'est un jeu de mémoire. Pour gagner, il faut trouver à la fois, sur tout le parcours qu'on a fait, une clé et sa princesse. D'accord ? Il y a des petits éléments en plus, il y a un petit téléporteur, et puis il y a deux monstres invincibles, des blocs qu'on ne peut pas tuer. Donc, eux, quand on tombe dessus, on les prend et on les échange avec une autre carte sur le plateau.
D'accord.
Voilà, c'est un jeu de mémoire, c'est marrant. C'est marrant, le problème c'est que comme il y a 5 cartes il y a 25 cartes, il y a des parties, premier tour, le joueur il retourne 3 cartes et puis il a tout trouvé. Bon tant pis. En général, ce qu'on fait dans ces cas-là, on dit le joueur il a gagné, mais les autres joueurs vont continuer la partie quand même pour aller un petit peu plus loin.
Il a gagné, mais on veut jouer quand même.
Voilà. Bon, c'est un petit jeu de mémoire sur le thème de Game Over, mais qui marche bien parce que c'est pas un memory, il faut mémoriser un parcours, donc c'est un petit peu différent. En sachant que les cartes peuvent changer sur le plateau. Du coup, c'est pour ça qu'il est donné pour à partir de 5 ans.
Excuse-moi, l'univers de Kid Paddle à 5 ans, faut pas quand même exagérer. Mais...
Alors après, c'est une licence, donc effectivement. Mais non, il faut que le gamin ait une petite culture du jeu vidéo avant d'aimer.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais le jeu peut être joué avec des enfants à partir de 5 ans. Ça dure, c'est marqué 15 minutes sur la boîte, je dirais. Il y a 2 minutes d'installation de jeu et 5 minutes de partie. Donc Game Over, c'est un petit jeu de mémoire à partir de 5 ans chez La Haute Roche.
Toi, tu conseilles à partir de quel âge? 5 ans. Ok, j'ai rien dit.
En fait, le thème, le gamin à 5 ans, il va peut-être pas capter que c'est Game Over, que c'est Kid Paddle, c'est machin, mais à 5 ans, il peut jouer, ouais, largement.
D'accord.
Mais c'est facile de comprendre que c'est un mémoire, il faut mémoriser un parcours, donc ça change de mémoire pour ça. Donc oui, je conseille à partir de 5 ans, je pense. Donc c'est un jeu de Jérémy Petvin, je sais pas comment on dit son nom, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Donc pour 15 minutes, moi je dirais plutôt 5 à 10 minutes, 2 à 4 joueurs, donc pour 10 euros environ.
Et aujourd'hui, Jérémy, tu vas nous parler de Stone Age sur iPhone.
Oui, pour commencer. Alors, Stone Age.
Chez moi, Twinit.
L'âge de pierre. Ah. Ça commence déjà bien.
Merci.
Sauras-tu retrouver Twinit sur mon iPad?
Allez, Stone Age.
Donc, Stone Age sur iPhone, c'est l'âge de pierre, un jeu qui est édité déjà par Philosophia depuis quelques années, qui a manqué de gagner des spiels et des choses comme ça, mais qui ne les a pas eu. C'est un jeu de gestion pose d'ouvrier, je dirais un jeu d'optimisation. C'est de la pose d'ouvrier, comme on en connaît dans plein d'autres jeux, c'est sorti dans la foulée de Kellus, etc. La différence, c'est qu'ici, pour collecter les ressources, il va y avoir une petite part de hasard, puisqu'on va lancer des dés, et en fonction du nombre de pions qu'on aura mis, on gagnera plus ou moins de ressources. Donc les ressources, c'est du bois qui est facile à avoir, on divise la somme des dés par 3, jusqu'alors on divise la somme des dés par 6, donc il va falloir envoyer beaucoup de monde pour espérer obtenir de l'or. Les tours de jeu sont très simples, au début chacun son tour, on pose des bonhommes, des ouvriers sur les différents emplacements du plateau. Ensuite, on va récolter, on va récupérer les bonhommes dans l'ordre qu'on veut. Et ensuite, on va faire de l'entretien. Il faut nourrir tout ce beau monde.
L'upkeep, encore une fois.
Voilà, encore de la bouffe. Donc, assez simple. La particularité du jeu, elle vient du hasard des dés, qu'il va falloir un petit peu maîtriser. Donc, comment on maîtrise ça? On peut le maîtriser en ayant cherché des outils qui vont permettre de donner des bonus sur nos jets de dés. Une autre part de hasard, mais qui est un petit peu contrôlée, c'est des bateaux en fait, qui arrivent, qui vont nous permettre d'acheter des bonus pour la fin de partie.
Alors, ne pas négliger les bonus pour la fin de partie.
Ouais, c'est ça, exactement. Les bonus de fin de partie, c'est pas juste des petits bonus, c'est des gros scores. C'est moyen de doubler, voire même plus son score, qu'on ne se rend pas forcément compte aux premières parties. Donc ces bateaux, ils arrivent en fait, ils arrivent progressivement. Les bateaux, au fur et à mesure qu'ils sont pris, ils descendent, ils coûtent de moins en moins cher. Donc c'est pour ça que je dis... C'est un hasard maîtrisé, puisque de toute façon, le bateau qui arrive un tour qui coûte 4 ressources, on va en général pas le prendre, mais on sait qu'au prochain tour, on peut se positionner, on peut se dire « j'irai le chercher ». Donc voilà, le portage, il est actuellement que sur iPhone.
Oui, ça c'est bizarre.
C'est assez bizarre. Oui, ils ont promis une version iPad pour plus tard. Alors quand je dis c'est sur iPhone, c'est des graphismes Retina qui sont pas mal du tout. Par contre, si par exemple je l'ai testé sur mon iPad 1, donc il n'est pas Retina.
En x2 ?
Non, même pas en x2, et les textes n'étaient pas beaux. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'avaient fait qu'un graphisme Retina, ou je sais pas. En tout cas, le texte, si tu veux, il était pas lisse, c'était pas très très lisible. Mmh. C'était pas très agréable.
Quel intérêt Ah oui, tu peux, mais ça sera en petit.
Mais toujours en petit, voilà. Donc ça se joue sur iPhone, après tout, pourquoi pas. C'est un jeu quand même, il faut savoir, une partie, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, en jouant contre des IA. Donc pour un jeu sur iPhone, c'est pas le temps auquel on s'attend. Au niveau du portage...
Tu veux dire c'est trop long ?
Ouais, c'est presque un peu long, moi, je trouve, pour jouer sur un téléphone. Souvent, on fait des jeux en 5 minutes, quoi. Mmh.
Mais... Oui, on a parlé de Kern la semaine dernière, c'est pas la même, même format.
Même les aventuriers du rail, en jouant à deux, on arrive à jouer plus vite qu'un Stone Age. Ouais, ça va très très vite. Donc le jeu, il est pour l'instant qu'en anglais ou en allemand, ce qui est un premier... Mes critères un petit peu dommage. Il prévoit les prochaines langues après, surtout que si vous le cherchez sur le store français, si je me rappelle bien, il s'appelle L'Âge de Pierre, justement, le jeu de plateau, parce qu'il y a déjà un autre jeu qui s'appelle Stone Age qui n'a rien à voir avec ça, sur le store. Le jeu, comment est-ce qu'on va le prendre en main ? C'est assez facile, il y a un tutoriel.
Tu attrapes ton iPhone.
Ouais, et puis tu touches l'écran.
C'est ça.
Et tu fais glisser ton doigt, et c'est génial, tu poses tes pions. Il y a un tutoriel qui permet très facilement... Donc en anglais aussi évidemment, qui permet facilement de comprendre comment jouer. Ça c'est très bien, il présente même tous les différents bonus qu'on peut obtenir pour la fin de partie, etc. Donc en gros il nous prend en main pour les deux premiers tours. On se rend dans une partie à 1 contre 1 et ensuite contre une IA et ensuite il nous laisse aller jusqu'à la fin de partie. Éventuellement de temps en temps il nous remet des petits conseils et puis c'est tout. Le problème c'est que le tutoriel est très bien fait, on comprend très vite comment fonctionne le jeu. Après plus tard quand on va rejouer, si on veut de l'aide sur ces petits détails...
Ouais, tu peux pas.
Là, il y a pas. Et si tu regardes la règle du jeu, elle est rugueuse. Elle est en mode texte. Il y a aucune icône qui est rappelée. C'est pas facile là-dessus de se rappeler qu'un bâtiment ce qu'il fait ou bien telle tuile bonus ce qu'elle fait.
Mais surtout quand ton écran est tout petit.
Ouais, non, mais c'est pas gênant. Justement, par contre, ce que j'allais dire, c'est que ça boîte sur un iPhone. C'est très bien. En fait, comment ils ont fait, c'est qu'il y a des parties du plateau que t'as pas besoin d'avoir tout le temps devant les yeux. Donc ils les ont pas mis sur l'écran. Ils l'ont mis que quand t'en as besoin, genre quand tu vas chercher les ressources. Quand t'as besoin de faire glisser des bonhommes vers le bois, tu les fais juste glisser vers une icône bois, et ensuite ça change l'écran, et donc là tu rajoutes tes bonhommes ou tu vas gérer des. Donc là-dessus c'est une manière intelligente de gérer le plateau. Pour le reste, moi ce que je reproche c'est les IA qui sont un petit peu limitées. Heureusement.
Ouais, mais ça c'est comme d'habitude.
Bah, c'est fréquent. C'est pas facile. Hein, ceci dit, je le reconnais, que ça doit pas être facile de développer.
Ouais.
Mais par contre, il existe plusieurs solutions de jouer en multi de base avec le jeu, c'est-à-dire qu'on peut jouer en pass and play, donc je joue sur l'iPhone, après je te le passe, tu joues ton tour et ainsi de suite. On peut jouer aussi à plusieurs à travers le Game Center, et il y a deux modes sur le Game Center, ou bien on joue en mode championnat, dans ce cas-là on va jouer contre les autres de son niveau, etc. Ou bien on peut jouer en mode cool, et dans ce cas-là...
De son niveau, excuse-moi, ça se base sur quoi ?
Je pense qu'il fait un calcul Elo, un truc comme ça... Ouais. Tu vas te trouver des joueurs à peu près de ton niveau. Ou alors, donc, tu vas jouer avec un joueur purement au hasard, ou bien dans tes amis, tu vas piocher. Par contre, il n'y a pas de mode pour
pioche
jouer en
Bluetooth.
Pioche un ami dans ton Game Center. Par contre, tu ne peux pas jouer en Bluetooth comme tu pouvais le faire avec les Aventuriers du Rail, ça, je trouve dommage. Parce que c'est un des modes que j'utilise le plus dans les Aventuriers du Rail sur iPhone. Globalement, le jeu pour moi, il est, c'était un bon portage. Donc il y a les petits, quelques petits couacs à droite à gauche, mais globalement, visuellement, c'est parfait. Le jeu, c'est pas pris un jeu qui était inintéressant à jouer. Mais ça fait peut-être pas partie de mes jeux préférés de pause d'ouvrier. C'est agréable, ça reste agréable à jouer sur l'iPhone. On attend juste une version en français et sur iPad.
Ouais, c'est clair.
Ce sera encore mieux.
C'est clair.
Voilà, Stone Age sur iPhone, c'est vendu 4,49€ sur le store. Et je pense qu'après, quand la version iPad sortira, ce sera une version universelle. Donc, si vous l'achetez sur iPhone maintenant, vous en bénéficierez sur l'iPad ensuite.
Oui, alors d'abord, un petit Kickstarter, et puis on vous le sortira en universel, mais ça, c'est déjà prêt.
J'ai pas précisé, mais c'est un premier portage pour Campfire Création, là, l'éditeur. C'est très bien. Je veux dire, pour un premier jeu, c'est déjà un très bon niveau de qualité.
J'adhère.
Très bien, comme la colle.
Alors, tu conclus donc ce 39B
par Twinit sur iPad. Donc Twinit, j'en ai parlé dans la face A, c'est un jeu où il faut associer des paires parmi plein de bulles, etc. Si vous avez épuisé votre version...
Dans un peu comme dans Buzzon Memo.
C'est cela.
Parce que dans Buzzon Memo, il faut associer des paires aussi.
Oui, c'est des paires, mais c'est pas les mêmes types de paires.
Non.
On vous laissera chercher Buzzon Memo sur BoardGameGeek. Donc, peut-être qu'on mettra un lien.
Oui, on mettra un lien.
Voilà. Bon, je suis pas sûr que ce soit du meilleur goût dans les toilettes, mais en même temps.
Bah, ça dépend. Ça dépend de quelle toilette.
Voilà, bref. C'est cela.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu notre minute trash, mais bon.
Bon, ça va encore, on ne révèle pas tout.
Non.
Donc Twinit, c'est un jeu sur iPad, donc vous allez devoir pareil retrouver les bulles identiques. Il y a trois modes de jeu. Il y a un mode recherché, comme on ferait dans les toilettes. Donc il faut chercher à l'écran les paires, il nous propose à chaque fois un symbole qu'il faut rapidement trouver sur l'écran parmi toutes les bulles. Moi, ce que je trouve de dommage, en fait, c'est que les bulles, elles sont toutes rondes, alors que sur le...
Non, mais sinon, non.
Le vrai truc, c'était tout tordu. Oui, non, mais je sais bien, mais ça compliquait en fait la recherche. Le fait que les formes soient tordues. Il existe un mode versus, donc l'un contre un sur le même iPad. L'écran est splitté en deux. La petite particularité, c'est que bon, faut être le premier à trouver aussi un motif, mais chaque joueur doit scroller, puisque forcément sur un demi iPad, on peut pas tout afficher, donc il faut qu'avec son doigt, il scrolle pour essayer de trouver au plus vite. Mais il y a un vrai côté compétitif.
Oui, ça t'a l'air de dire qu'il faut complètement déplacer l'écran à droite ou à gauche.
Non, c'est tout en haut, en bas.
Ouais, c'est...
Ça va vite, non mais justement, c'est frénétique.
C'est pas très très loin, disons.
Non, c'est pas. Non mais je le dis parce qu'il y en a qui ont découvert après coup qu'en fait on pouvait déplacer l'écran. Et puis il y a un mode... Il y a un mode coopératif où là il faut trouver donc les symboles identiques. Il faut en trouver... C'est un time attack en fait. Il faut en trouver le maximum dans un temps imparti. Et le mode recherche, c'est il faut tout trouver le plus vite possible. Et il y a un autre mode où il faut en trouver le maximum et avec un temps qui est décompté. Et à la fin, c'est un peu comme dans Outrun. Au moment quand on a passé les checkpoints, on a zéro et c'est la fin. Voilà, il y a l'intérêt du jeu. Enfin, là où ils ont bien compris, c'est qu'ils gardent les scores. Et donc, on va tenter de toujours aller battre les scores.
Là, c'est un time attack.
Voilà. Mais c'est vraiment fait. Enfin, c'est l'intérêt du jeu. Hein. Après, à part le mode versus, le portage, il est par contre très bon. Alors, on retrouve vraiment la charte graphique du jeu. Je trouve qu'il est bien présenté, haut en couleur. L'iconographie est bonne. Enfin, pour ça, pour moi, c'est impeccable. Ça répond bien. Après, le prix, bon, pour moi, ils l'ont mis à 1,79€. Pour moi, c'était un jeu que j'aurais mis à 0,89€.
Ouais,
c'est un jeu repos prod, donc habituellement, ils font ça comme ça. Si vous avez aimé Twinit, de toute façon, vous pouvez craquer pour. Sinon,
craquer pour.
Ouais.
Craquer pour. C'est pareil. Après, 79, c'est une bière, quoi.
Oui, c'est ça. C'est pas non plus cher. Et je pense que vous y jouerez. Je pense qu'en fait, par contre, le jeu, on n'y joue plus au bout d'un moment. En fait, je pense que c'est le genre de jeu quand tu l'achètes, tu joues frénétiquement.
Je veux dire.
Ah, je pense que non. Tu vois, un jeu comme Ticket to Ride, j'y joue toujours. Un jeu comme Twinit, je pense que j'y jouerai plus tout court au bout d'un moment. Mais le portage est bon, le jeu de toute façon est très fun et le fait qu'il y ait le mode à la fois en versus et à la fois on peut jouer contre le temps, c'est ce qui lui donne sa longévité. Ouais. Voilà, j'ai fini pour la partie écran.
Eh bien écoute, encore des bons jeux. Je rappelle, si vous avez vraiment envie de faire évolutionner votre cerveau, si vous êtes que deux Vous pouvez jouer à Le Havre, le port fluvial. On n'a pas dit, c'est quand même assez aride, même sur les illustrations. Mais c'est bien quand même. Si vous êtes plus que deux, enfin deux ou plus, vous pouvez aussi jouer à Mirmes. Alors là, c'est aride, c'est aussi sur les illustrations. Mais ça marche. Et ça marche bien. Ensuite, c'est beaucoup Crimebox. Pour vous raconter des histoires et pour que
voilà, pour qu'il y ait un thème un peu plus
un peu sanglant et puis un peu immersif et puis bon, vraiment un jeu de communication. Et puis pour les enfants ou en famille, parce que il y a des bons jeux qui se jouent en famille avec les petits et les grands. Game Over, le jeu chez La Haute Roche. Voilà. Donc à partir de 5 ans, mais il vaut mieux y jouer quand on a un petit peu la culture de Kid Paddle. Et puis Mytho, que nous conseillons à tout le monde, sauf, adultes, à ma voisine.
Sauf la voisine d'Olivier.
Voilà.
Que nous ne saluons pas au passage, parce qu'elle ne s'écoute pas.
Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur notre site, nous dire si vous aimez les graphismes de Mirmes, si vous avez trouvé que Crimebox était un jeu trop intellectuel, ou s'il faut avoir moins de 5 ans pour jouer à Game Over. Et dites-nous également si vous voulez qu'un éditeur relance une nouvelle version de Buzzon Memo, qui est un incontournable des jeux de Memory. Voilà, alors...
Un projet Kickstarter. Un projet Ulilé pour Proxy Jeux, Ulilé,
n'est-ce pas, en portant en arrière avec Marc Dorcel, je pense. Il faut relancer cette idée. Mais je pense qu'il y a quelque chose, là. Bon, bref. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Jouez. Jouez sur iPad, jouez sur votre ordinateur, jouez sur votre table. Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro d'actu. Et d'ici là,
jouez bien.